quand le jingle part à l'heure, qu'il est là, qu'il est calé. Ça on voit que Paul Vecchio n'est plus notre réalisateur.
Ouais.
Enfin, ce soir en tout cas. Ah, on s'ennuie du coup.
Non, mais ça, ça annonce toujours un bon moment cette musique.
Ouais, c'est vrai. Notamment l'arrivée de Simone Rovera. Salut Simone.
Ciao, voilà, c'est vrai, bonsoir.
Ou celle de David Lorto et de sa Bundesliga.
Le championnat avec le plus grand suspense en Europe. Allô, Freud.
Bon. Il a déjà vu.
Il en raconte, lui.
Cette saison.
Et l'Angleterre,
c'est
pas mal.
Dernières. Ouais, mais deux leaders à égalité, c'est pas mal quand même.
Si t'écoutais Simone hier, c'était vraiment le calcio avec ce match Juve.
16 points. T'imagines, tout peut se passer là.
Un grand moment de
série. C'est incroyable.
Je sais, je suis au courant.
C'est pas vraiment de ma faute. C'est quelqu'un qui devait pas faire la passe en arrière. Un retrait là.
Attention, il est là lui aussi, Fred Hermel, messieurs dames. Salut Fredo.
On les 16 points. Petit joueur, il y en a 12 entre le Real et le Barça. Hola, Ticos.
Salut, Fred.
Salut. Et Julien Laurence nous rejoint dans quelques petits instants. Bien sûr, il arrive le temps qu'on connecte Londres. Hein, c'est avec le Brexit, tout ça, c'est compliqué maintenant. Ça se fait plus comme avant.
Décalage horaire, donc.
Décalage horaire en plus, exactement. Ouais. Alors que nous, bon, on est sur le même fuseau horaire quand même.
À nous, c'est pas bien.
Entre
pas
Européens du continent, on se sent bien, on est bien.
Après, bon. Là, tout va bien. Italie-France. C'est à nouveau la paix.
Vous savez qu'en Espagne, on n'est pas sur le bon fuseau horaire, en fait.
Qu'est-ce qui se passe en Espagne?
En Espagne, on n'est pas sur le bon fuseau horaire.
Ah oui, c'est vrai.
On devrait être sur le fuseau horaire anglais. Mais en fait, ça vient de l'époque de Franco qui était plutôt allié avec les forces de l'Axe, vous voyez ce que je veux dire?
Mm-hmm.
Qui voulait pas être sur le même fuseau que l'Angleterre. Il préférait être sur le fuseau de Berlin.
De toute façon, t'es pas au même fuseau horaire, puisque là, à 23h, tu passes à table.
Non, mais moi maintenant je peux pas raconter ma vie, mais je fais le régime
le jeûne intermittent.
Ouais.
Ah, moi aussi. Ouais.
Je réduis le entre le petit déjeuner et le dîner. C'est-à-dire que je fais au moins 12 heures de jeûne.
Ah, mais
jour.
Ça sert à rien, Fred. Moi je le fais, je le fais, c'est 16 heures le minimum où tu commences à sécréter plus d'hormones de croissance et de testostérone.
La testostérone, ça marche, c'est ce qu'il faut, mais...
Il y a des gens qui sont suspendus pour dopage avec la testostérone.
Et ça marche bien, hein. Depuis que je fais ça, j'ai pris un kilo de muscle, j'ai perdu 1,5% de...
C'est vrai que je me sens vachement mieux, en fait. J'essaie de faire 14 heures. 16 heures, c'est trop, mais 14 heures de jeûne par jour.
Enfin, quand tu réduis 14 heures, tu peux tenir 2 heures.
T'assures qu'au début c'est dur, mais les 16, tu peux les tenir facilement.
Ah bah, tu fais ça tous les jours, toi?
Ouais.
C'est vrai que tu manges pas le soir, en fait.
Ouais, déjà, non, j'arrête de manger à 8 heures.
Déjà, il dort 12 heures par nuit.
J'arrête de manger, ça va pas, j'arrête de manger à 8 heures, je commence de manger à midi. Et surtout, je vais à la muscuage, le matin.
Ça fait loin.
Mais si tu sais que sur Twitter j'ai eu des grands débats avec les auditeurs de l'émission qui sont Simone super intéressés par le régime.
Messieurs, dames, Julien Laurence est là. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Julien.
Allez, on y va. Attention, demain Ligue des Champions, bien sûr. Demain le Real face à l'Ajax. Et alors bizarrement, Fred Hermel tremble.
Non.
Di Maria, il est tout seul! Di Maria, t'es nul! Mais t'es nul, Di Maria! Il a frappé au-dessus, Di Maria! Di Maria, tu es nul!
C'était il y a quelques années, hein.
Bon, si bon.
Et demain, je suis au commentaire radio, hein, de Real Madrid Ajax, hein. Donc,
qui va être nul demain?
Vinicius, qu'est-ce qu'il va prendre encore?
Un jeu concours. Va être Gareth Bale, Vinicius.
Alors, tu voulais parler de ce match, et t'as un avis, donc on t'écoute. Je rappelle quand même qu'à l'aller, le Real a gagné, et pourtant t'es inquiet.
Ah oui. Enfin, je suis inquiet, pas inquiet pour moi, même si j'ai quand même envie de voir des matchs de Ligue des Champions, même si j'ai l'Atlético à côté, et qui est bien parti face à la Juve, on ne sait jamais. En fait, ça m'emmerdera un petit peu, hein, pour parler poliment, que la saison du Real se termine le 5 mars, quoi. J'ai encore envie de vivre quelques petites émotions dans ce stade cette saison, parce que, bon, la Liga, c'est fini. Après la défaite contre le Barça, la Coupe du Roi c'est fini. Après la défaite contre le Barça, et il y a plus que cette Ligue des Champions avec a priori un match accessible. Simplement l'état d'esprit des Madrilènes. Moi j'ai été ce matin, bien comme d'habitude, aux conférences de presse. J'ai pu voir Modric pour RMC Sport. Vous avez pu voir cette interview pour la télé. Bah je les sens pas très rassurés, hein. Vraiment. Alors il y a un discours de façade, mais on sent qu'il a quand même commencé à avoir quelques petites brèches dans l'unité du vestiaire. Ils ont vraiment pris un coup sur la tête avec ces deux défaites consécutives contre le Barça, et c'est une équipe fragile, c'est une équipe pas sûre d'elle, c'est une équipe qui a un problème cruel d'efficacité offensive. C'est-à-dire deux matchs contre le Barça, ils ont quand même pas mal d'occasions, zéro but. Et voilà, et si on prend ligne par ligne, bon, le gardien Courtois, il n'y a pas de problème, il est très bon. Il manque Sergio Ramos en défense.
Pas aussi bon que ce qu'il a été avant.
Non, mais il est bien quand même. Franchement, ce week-end,
c'est encore. Par rapport à l'Atletico, à son niveau de l'Atletico et Chelsea, c'est pas la bonne.
Ouais, mais là, enfin, après, le Real, c'est autre chose, parce que, tu sais, dans une équipe ultra offensive comme le Real, le poste du gardien, il est quand même beaucoup plus exposé. Mais enfin, lui, il y a pas de problème. Demain, Ramos est pas là, puisqu'il est suspendu.
Un carton, oui, bon, ça, c'est lui qui a choisi d'être suspendu.
Il a choisi, voilà, voilà. Donc, la défense, c'est un petit problème quand t'as pas ce type-là. Modric dit qu'il est bien, etc., sauf qu'on sent quand même le poids des ans. Kroos est dans un état lamentable.
Oui, il est méconnaissable.
Au bout d'une heure, il est méconnaissable. C'est-à-dire que c'est, il manque des contrôles tout bêtes. Voilà, il n'est pas capable de faire ses grandes transversales qu'il aime bien, etc. C'est pas un joueur sûr à l'heure actuelle. Casemiro n'est pas le. Il joue toujours à la limite, sauf que là, il est un peu limite plus, un peu lent, donc il fait beaucoup plus de fautes, il se prend des cartons. Et puis devant Karim, comme il y a des problèmes de création, on en parlait tout à l'heure avec Duga, Karim redescend beaucoup Benzema parce que il a pas le ballon, donc il est plus à son poste de numéro 9. Bon, Lucas Vazquez va jouer demain. Lucas, c'est un bon bosseur, il va surtout travailler à pas prendre de buts.
Un joueur moyen, frère.
Voilà. Un joueur utile. Moyen, mais utile. Zidane le faisait jouer. Solari l'a fait se reposer contre le Barça pour jouer demain. C'est dire si c'est un joueur important. Et Vinicius, c'est le phénomène. Il est magique. Sauf que dans le dernier geste, il est parfois désespérant. Donc, cette équipe, elle est pas très rassurante. Solari, il sait déjà qu'il va se faire virer au mois de juin, quoi qu'il arrive. Ce matin, la moitié des questions sur la conférence de presse, j'exagère un peu, c'est sur son avenir et un possible retour de Mourinho. Donc il a eu cette phrase magnifique en disant « Le Real Madrid a toujours eu plus de prétendants que Julia Roberts ». C'était une manière d'évacuer la tension au sujet de son remplacement. Mais voilà, heureusement, sincèrement, qu'il n'y a pas de remontada à faire pour le madrilène, qui a un 2-1 à l'aller qui est quand même confortable. Mais, ouais. Et je terminerai là-dessus, rappelez-vous l'an dernier, quart de finale, victoire à l'aller 3-0 sur la pelouse de la Juve. Ils gagnent 3-1 avec un pénalty à la dernière minute de Ronaldo. Enfin non, ils perdent 3-1. Donc c'est avec ce but, en plus un pénalty tout à fait gentil, que le Real se qualifie. Rebelote en demi-finale contre le Bayern, où ils avaient gagné 2-1 à l'aller. Et au retour, ils ont souffert le martyr pour se qualifier. Donc et on a bien vu cette semaine que le Bernabeu n'est plus un fort infranchisable. Donc voilà, le Real, je pense que le Real va se qualifier au métier, mais il risque demain d'y avoir quelques petites émotions et quelques petites peurs pendant toute la rencontre. Je serais pas étonné que le Real Madrid soit mené.
Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, avec Fred? Pierre?
Ouais, juste sur le match aller, la victoire confortable, je trouve pas ça si confortable que ça. Même.
Non, le résultat confortable, je parle.
Ouais, et encore que.
Ouais.
Et encore
que. Doha, l'aller, c'est un bon résultat quand même, tu vas pas dire.
Ouais, mais contre cet Ajax qui a fait forte impression dans le jeu, etc., et la période que traverse le Real, c'est pas si confortable que ça, je trouve quand même. Tout est ouvert, moi, je trouve.
Bon, on verra demain, hein, ce sera sur RMC. Et tiens, on a Manolo qui est là au 32-16, qui est supporter de l'Ajax, contrairement à ce que tout le monde indique. Salut Manolo!
Bonsoir à l'équipe, comment vous allez?
Ça va et toi?
Moi ça va.
Hein. T'as entendu Fred? Il est en train de flipper là.
Ouais, j'ai vu ça, il a la pression en face des jeunes marmots. Comment c'est possible, le grand Real?
pour les raisons que je viens d'indiquer.
Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi, Manolo? L'Ajax peut le faire?
Bah, si je vois confiance comme elle allait, qu'ils ont un peu plus de maîtrise dans les dernières passes et un peu plus de lucidité, ils peuvent les faire douter dès le début, hein. Parce que ils vont se déplacer avec confiance.
Ouais, enfin, moi, il y a quand même un truc qui me... Excuse-moi, il faut gagner 2-0 éventuellement, 3-1.
C'est ce que Manolo dit. Si t'es un Ajax comme aller, mais qui dans la finition est meilleur, tu peux vite te retrouver au bout de 20 minutes de jeu à 1-0 pour l'Ajax. C'est pas fou de le penser. Et le match est totalement relancé. Tu restes comme ça jusqu'à la fin, c'est le feu jusqu'à la fin. Et le Real, dans la période qu'il traverse, peut douter.
Ah, parce que tous les joueurs de l'Ajax vont vouloir se montrer dans ce match-là, ils vont vraiment être à 150%, je pense.
C'est une vitrine, hein.
Bernabéu, il a pas beaucoup qui ont joué dans ce stade. Donc, je pense qu'ils vont le prendre avec une pression particulière. Hein. Ils vont jouer comme si c'était une petite détection où les yeux de l'Europe seront peut-être rivés sur eux. Donc,
ou juste un huitième de Ligue des Champions contre le Real dans un des plus beaux stades du monde aussi, quoi.
Donc,
ça suffit.
Plus beau stade, tout à fait, Pierre. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et puis, c'est un match exceptionnel pour l'Ajax, hein. Il y a rien à perdre, t'imagines?
Fred, j'ai l'impression que cette double défaite contre le Barça, c'est vraiment le symbole du fait que le Real est totalement en fin de cycle.
Ah oui, bien sûr.
Tu vas changer de paradigme l'été prochain, il va y avoir beaucoup de recrutements, un nouvel entraîneur. Là, quand regardes les joueurs qui sont sur la pelouse, et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus une super bonne ambiance. J'ai vu que Modric avait un peu tapé sur les joueurs qui étaient censés prendre la place de Cristiano.
Sur Bale, tout simple, il n'a pas dit le nom, mais c'est sur Bale. Bale qui a encore fait des siennes. ce week-end. Il a été remplacé. Alors, il était titulaire, il avait beaucoup de chance. Il a été lamentable face au Barça. Ouais. Remplacé en deuxième période. Il va s'asseoir quelques minutes à côté de Marcelo sur le banc. Il va dans le vestiaire, il part avant la fin du match.
Il a défendu, Fred.
Tout à l'heure, au Real, partir avant la fin du match, c'est rédhibitoire.
Bah, il l'a déjà fait une fois. Moi, je me souviens d'un joueur français qui s'appelait Lassana Diarra, qui était une fois parti avant la fin. Bon, c'était son bon de sortie était signé. Bale a été un peu protégé à cause de son statut, des 91 millions qui ont été dépensés, le fait que ça avait été un choix du président. Mais là, c'est fini. Bale part en fin de saison. Marcelo va partir. Au milieu de terrain, Kroos, je suis pas sûr que son avenir soit vraiment assuré s'il continue comme ça. Il y aura l'arrivée
de son agent. A eu des mots intelligents, Fred. En plus, il lui a pas du tout le public à dos.
Bah bien sûr, c'est-à-dire que déjà il est nul, il s'est sifflé, et après l'agent Jonathan Bennett vient attaquer les supporters du Real Madrid, donc en disant il devrait l'applaudir pour tout ce qu'il a fait pour le club.
Lui baiser les pieds, non, c'est pas ça.
Ouais, un truc dans le genre, ouais.
Et puis même t'as des joueurs comme Isco et Asensio, tu t'attendais à ce qu'il passe un cran avec le départ de Cristiano, et puis c'est pas du tout le cas.
Tu dis pardon, quel joueur?
Il y a des joueurs comme Isco et Asensio, tu t'attendais
Isco joue plus, Isco joue plus. Asensio revient petit à petit, mais enfin moi je suis le premier déçu. C'était il y a 2 ans un joueur extraordinaire qui devait tout exploser, mais bon, ça marche pas. Donc non, il y a vraiment boire le calice jusqu'à la lisse, ça peut se passer demain. Vraiment, ouais. c'est pas un
Fred.
C'est l'ambiance qui permet un exploit de l'Ajax.
Je remercie Manolo. Manolo, on te retrouvera peut-être demain. Non, si l'Ajax se qualifie, ce sera avec plaisir, bien sûr.
Juste rapidement, Gilbert, je suis pas trop d'accord avec votre harmonie sur l'inquiétude concernant le Real. Fred, le Real a tellement eu souvent les dernières saisons l'habitude de basculer juste ce qu'il faut en mode Ligue des Champions. Alors ça, ok, c'est de la théorie, mais moi, c'est sur la saison là, sur ce que j'ai vu de l'Ajax, et ils avaient été impressionnants. Je le répète, j'ai insisté plusieurs fois contre le Bayern en match de poule. Ok, super, ils étaient supérieurs, ils étaient largement supérieurs même au Bayern. N'empêche que l'Ajax, les deux fois, n'avait pas réussi à gagner le match parce qu'il avait vendangé énormément d'occasions. Et moi, je vois pas comment cette équipe, qui est certes brillante, qui a des super joueurs, etc., pourrait basculer comme ça en quelques mois d'une équipe qu'on applaudit, qui est brillante, qui est spectaculaire, à une équipe réaliste. Ce sont deux choses différentes. Le Real doit être l'équipe capable de punir au moment où il faut, juste marquer le but qui va.
Là, ils le font pas, ils l'ont pas fait ces derniers matchs. Il y a un gros problème d'efficacité offensive là. Donc quand Benzema marque pas,
le Real 0-0.
Alors, 0-0, ça passe avec ça, mais
avant de parler Ligue des Champions avec Simonet dans quelques instants, on va parler de la Roma, on va parler de Ligue des Champions avec Julien qui va parler de Manchester, du Bayern avec David bien sûr, même si le Bayern joue pas cette semaine en Ligue des Champions.
Ouais, on peut évoquer Schalke qui a une grosse actu.
Exactement. Un mot sur Morata parce que c'est un des éléments importants du week-end là pour ceux qui ont pas tout vu en Espagne ce week-end, Fred.
Bah c'est mon cador je suis le premier à reconnaître que franchement Simeone a encore fait une bonne pioche quoi. Qu'est-ce qu'il s'est bien recruté l'entraîneur de l'Atlético, parce que Morata qui revient en Espagne après tous les déboires qu'il a eu à la Juve, au Real et puis à Chelsea Julien, il a été carrément poussé avec un coup de pied au cul de Chelsea. Et là, ça marche. Franchement, Morata, jusqu'ici, alors, son père a pas encore foutu le bordel, mais jusqu'ici, il est nickel. Dans toutes ses déclarations, dans tous ses gestes, et dans sa manière de jouer. Il a marqué. Alors, si l'Atlético ne gagnait pas sur la pelouse de la Real Sociedad, qui est quand même pas un stade facile à Noeta, la Liga était terminée. C'est-à-dire que, le Barça, après sa victoire au Real, il y a plus qu'un petit risque pour le Barça de pas gagner la Ligue des Champions, de pas gagner la Liga, c'est l'Atlético. Et l'Atlético s'est imposé sans faire un match extraordinaire, mais avec deux coup de poignard de la tête sur coup de pied arrêté de Morata, vraiment les buts classiques d'un vrai numéro 9. Il a été excellent, il travaille bien l'entraînement, et je me souviens l'autre jour contre la Juve, quand il entre et il met ce but injustement refusé pour une petite poussette qu'a vu le VAR sur Chiellini, Morata, au lieu d'aller voir public et de dire
Chiellini
a fait de la, du plongeon artistique qui aurait été très bien commenté par David Lortolari d'ailleurs.
Tu vois, donc je relève le défi, Fred.
Ouais, tu vois. Et donc il se présente
sur RMC Sport.
Morata
à la radio, vous ne le voyez pas, mais Simone Rovira fait les yeux au ciel.
C'est l'ingrat avec cette histoire de Chiellini. Retournez la page. Rien s'est passé. L'Atlético a gagné encore sur les vieilles histoires.
Chiellini est le premier joueur de l'histoire à avoir baisé le VAR. pour parler crûment.
Bah ouais,
parler.
Franchement,
il l'a fait. C'est un artiste.
Bravo l'artiste, comme disait Jonathan.
Moi, je trouve ça. Les limites du VAR. On voit les contacts, mais pas la force.
C'est génial.
Quand il y aura
la
force. D'un poussette,
l'homme est plus fort que la machine, dis-le, c'est ça.
Bien sûr. Au final, le Terminator, c'est les humains qui gagnent.
Le modernisme ambiant.
Et donc après ça, il est applaudi. Ouais. Alors, donc le but au départ est accordé et Morata, il y a quand même le public qui avance sa venue, chanter des cantiques. Pas de Vikings chez nous, les Vikings c'est les joueurs du Real. Enfin, il était attendu, il était détesté.
Pourquoi les Vikings ?
Personne ne voulait de lui. Parce que le Real Madrid, les Vikings, les Vikings. Bon. Et le surnom des joueurs de l'Atlético, ce sont des Indiens. Voilà. Ah ouais, vous savez pas ça.
Bah
vous
non, moi je savais pas. Vous pour l'Atlético, mais pas pour le Real. Les Vikings,
ouais,
pas.
Ouais,
mais pourquoi les Vikings, ça vient d'où?
Mais ça vient du fait que les Vikings... Non, que les Vikings, quand ils arrivaient en Europe, ils dévastaient tout, ils gagnaient tout, ils dévastaient tout. Voilà, le surnom du Real vient là. Alors
c'est récent ou c'est très vieux?
Ah non, mais non, c'est historique. Ouais, c'est très vieux. Bah ouais, ça vient de l'époque des premières coupes d'Europe, quoi. Donc c'est, en fait, c'est utilisé par le Real, mais c'est utilisé de manière positive par rapport aux supporters du Real, mais aussi de manière un petit peu
péjorative.
Voilà, c'est le mot que je cherchais, de la part des ennemis du Real, quoi. Donc et les supporters d'Atlético disaient, on veut pas de Vikings chez nous, quoi. Donc et Morata. Vous savez, quand on n'est pas intelligent comme joueur, qu'est-ce qu'on fait? On met un but en Ligue des Champions, on va aller voir son public qui vous a critiqué, qui vous a sifflé, et puis on fait chute avec son doigt. Mmh. Et lui, il a ouvert les bras en disant « embrassez-moi ». Et là, tout le monde s'est... Voilà, il a été très intelligent sur le coup. Pour une fois, Morata, je pense qu'il a pas dû écouter son père, il a fait ce qu'il avait dans le cœur, et ça lui a servi. Et donc, Morata a fait une intégration express, il fait tout bien jusqu'ici, donc je l'ai suffisamment critiqué pour ne pas reconnaître ce soir que Morata est extraordinaire dans son retour en Espagne.
Dans quelques instants, Simone. On verra Julien Laurence, David Lorto, les grands de l'âme continuent avec Fred Hermel. Hein. Croyez pas que Fred va s'en aller. Il reste là jusqu'à minuit parce qu'il a toujours son mot à dire sur tout. C'est ce qui fait la force de Fred, qui représente, je le rappelle, la meilleure Liga du monde. Et rien que pour ça, évidemment, messieurs, je vous demande le respect.
Même si le Betis s'est fait battre par Rennes,
autoproclamé.
Bah, autoproclamé.
Dis pas que c'est faux. Je dis, c'est autoproclamé.
C'est 19 coupes internationales remportées sur les 20 dernières. 19 sur 20.
Voilà.
Il y a c'est mention très bien au bac.
À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Oui, on est là, bien sûr, c'est l'After avec Pierre Ducroix, avec Jonathan Macardy, avec les drôles de l'âme qui sont toutes là. On parle Ligue des Champions et on va en parler tout de suite avec Simonet, avec Julien, avec David Lorto. Fred est toujours avec nous, bien sûr. Simonet veut parler de la Roma. La Roma joue après-demain. C'est vrai qu'on est... Nous, évidemment, un peu tous déjà dans PSG-Manchester. Mais le Porto Roma est pas mal. Mon petit Simonet, jingle.
Conte avec Deschamps, avec Zidane.
On dit Pancelotto, nous.
C'était pas Allegro. C'était Ancelotto. On en parlait hier.
Hier, c'est vrai.
La Roma, on t'écoute.
Oui, la Roma, j'espère qu'il m'écoute aussi quelqu'un à Rome ou à Boston, où se trouve monsieur le président James Pallotta. Parce qu'ils sont en train de faire des erreurs énormes. La saison de la Roma, on savait que ne pouvait pas être simple. Il y a eu une énorme révolution, on peut dire, à niveau de joueurs cadres. Nainggolan, Strootman, Alisson, quand tu as celui qui a été, c'est pas les meilleurs gardiens de la saison dernière, les meilleurs en Ligue des Champions quand même, les perdre, ça change beaucoup des choses. Quand tes joueurs cadres ont une année en plus et tu fais pas un mercato pour les remplacer, mais un mercato d'avenir, c'est-à-dire t'as pas un Zeko autant si fort et un peu plus jeune, non, t'as pris des Kluivert qui ont 20 ans, t'as encore Chic qui n'a 20 ans, donc c'était pas la saison de la Roma qui pouvait gagner des choses. Aujourd'hui, après la défaite dans les derbies, est devenu soit la Roma est qualifiée en quart de finale, soit Di Francesco viré. La situation n'a pas beaucoup changé avec la défaite dans les derbies, et toujours quelques points derrière la quatrième place, mais ça reste un résultat possible. C'est à 3 points de l'Inter. C'est pas la défaite dans les derbies que a changé la situation. Surtout qu'on savait au début de la saison qu'ils n'ont rien fait pour rendre une équipe qui avait fait un exploit incroyable et un peu en fin de course plus fort. Donc mettre, on peut dire, les doigts, soit t'es dans les top 8 d'Europe, soit t'es viré. Pour moi, c'est une erreur énorme, parce que si Di Francesco, si quelqu'un a fait quelque chose d'incroyable, c'est Di Francesco la saison dernière. En faisant un revers pour la première fois depuis 84, quand ils ont joué la finale,
La Roma en demi-finale de Ligue des Champions. La Roma a un modèle économique qui oblige le club à vendre chaque année les joueurs pour ne pas être couvert de dettes, pour être rentré dans les discours de fair play financier, pour entrer dans les cadres de fair play financier. Donc, aujourd'hui, mettre vraiment la tête de Francesco sur la table, encore plus avec la deadline de cette match de quart de finale, parce que le choix numéro un du président Paolo Sousa a déjà donné sa parole à Bordeaux, et si la Roma tarde un peu, il va devenir entraîneur de Bordeaux plutôt que celui de la Roma. Moi, je trouve que c'est vraiment une erreur, parce qu'on donne des responsabilités énormes à Di Francesco, qui fait quand même un bon travail. La Roma était troisième la saison dernière, là elle est cinquième, peut encore arriver dans les top 4 et à nouveau dans les top 16 de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on veut vraiment plus?
Et d'accord ou pas avec Simone, les gars?
Une question.
Oui, c'est déjà beau ce qu'il faut.
Monchi a pas lié son sort à Di Francesco?
Ouais, mais Di Francesco ne l'a pas lié à Monchi. C'est-à-dire, tout vire de main Di Francesco.
Monchi a pas dit qu'il partait si Di Francesco partait?
Oui, mais attends, moi je pense que c'est plus logique, si tu veux, de virer Monchi pour certaines choses. Parce que t'as.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait?
Parce que t'as payé 25 millions Pastore, que c'était un pari. Bah, même pas un pari, c'était un peu absurde vu la situation.
Bah, c'est vrai que vu ce que dépensait à Séville Monchi, c'est beaucoup. Parce que c'est quand même le mec qui t'achetait pas cher pour revendre très cher.
Non, mais il a fait des bonnes choses. Zaniolo, c'était un coup de génie, en coup de d'essor, je sais pas.
L'équipe est jeune, hein.
Mais très jeune, hein. Voilà, tu as fait une équipe très très jeune. Les joueurs pour lesquels tu as défendu ton choix, Nzonzi, il joue, mais ça marche pas bien. Peut-être parce qu'il devait être à la place des De Rossi. Et tu peux pas enlever De Rossi jusqu'à quand il arrive à rester des buts sur le terrain. Donc, les choix de Monchi sont beaucoup sous les yeux de la critique en Italie. Et lui, c'est le premier à dire, OK, c'est ma faute. Mais c'est Monchi qui peut partir, qui veut partir et qui va partir sûrement parce que il devrait aller à Arsenal. C'est pas Di Francesco. Après, bon, si la Roma veut faire ça, soit la victoire face au Porto et les quarts de finale, soit t'es viré. Bon, peut-être qu'ils ont changé les dimensions, je ne me rends pas compte.
Quand tu as gagné 2-1 à l'aller, te qualifier, c'est pas non plus...
C'est pas infaisable.
Voilà, oui. C'est pas non plus l'exploit incroyable de l'histoire.
Oui, mais lier ça à l'avenir d'un entraîneur qui a fait de bon travail, pour moi, c'est grave, ouais. C'est une erreur. Bon.
Je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que c'est... Surtout sur un match, ça peut être un pénalty voilà. Pas bon à la dernière minute et tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'éléments extérieurs qui interviennent sur un match. Tout mettre sur un match, ça me paraît tellement violent, quoi, tu vois. En gros, ce que tu veux dire, c'est que on oublie, les dirigeants oublient tout ce qu'il a fait jusqu'ici, quoi, et que tout se joue sur 45 minutes.
Voilà, il a fait aussi des erreurs, probablement, dans la gestion du vestiaire, dans ses choix de compos.
Mais tout mettre. Derby aussi, ça passe mal, hein.
Bien sûr, t'avais pris 7 buts en fin de janvier face à la Fiorentina, je sais. Mais c'est pas que tu es 9e en Serie A, t'es largué de la Ligue des Champions. Moi, je te dis, s'il y a des coupables. Il y en a. Mais Di Francesco, c'est pas la première de la liste.
Vu comment l'équipe est jeune, je pense que c'est l'entraîneur Ridouane, justement, pour faire au moins un cycle de 3 saisons, pour faire progresser les joueurs.
On verra.
Et je te confirme bien que Monchi pourrait bien venir à Arsenal la saison prochaine. 3 millions d'euros, c'est la clause dans son contrat pour partir. Et effectivement, on parle beaucoup de Monchi ici.
Parce que les dirigeants de clause dans leur contrat maintenant.
Bah oui. Ouais, bien sûr. Bah, n'importe qui peut avoir une clause dans son contrat. Hein. Toi aussi, Gilbert, si tu veux.
Oui, d'ailleurs, je donne pas le montant.
c'est comme le Real, c'est un milliard, tu sais. En moins de 500 millions d'euros, il n'y a pas de clause.
À la Roma, ils pourront toujours prendre l'autre Monchi, le Monchi du Calvados, qui a plus de club. A plus de ça.
Mais non.
Ah non. Vincent Labrune, dans un communiqué de presse,
ouais,
avait nommé Vincent Gravelaine le Monchi du Calvados. Quand le prix d'Angolo Kanté s'était envolé.
Ouais. En même temps, Hugo Le Conte, ouais, il avait une certaine valeur, il avait raison, le Monchi.
Marseille ne voulait pas mettre les 11 millions d'euros demandés par Caen à ce moment-là.
Ils auraient dû.
Ah oui, ils auraient dû, oui. hier, on t'a entendu t'enflammer comme jamais, Simonet, pour un match, Naples qui au final ne décidera pas du sort du championnat.
Le match était beau. Après, le seul espoir, c'était de voir, pour avoir un championnat ouvert, c'était de voir la Juve tomber et de voir Naples commencer une remontada d'ici à la fin de la saison, qui aurait été impossible. Non, mais c'était un match quand même très intéressant, très important, moi je dirais aussi, parce qu'on a montré toutes les limites et sont énormes aujourd'hui de la Juve. C'est quelque chose qui m'inquiétait beaucoup pour le match retour face à l'Atlético Madrid. On a montré un bon visage de Napoli, mais là aussi, on a vu que dans les moments décisifs, quand il faut, certains joueurs, comme Insigne, prennent la responsabilité, font les pas en plus pour avoir un bon résultat. Il n'y arrive pas, lui il rate un pénalty, il a raté 3 en carrière, 2 face à la Juve. Ça veut dire pour moi quelque chose. On a vu un Juve un peu inquiétante encore, c'est pas la première fois. Au contraire, cette année 2019, c'est déjà arrivé face à la Lazio, face au Parma, face à Frosinone, face à Bologne. T'as l'impression qu'ils font que des matchs inquiétants. Les blessures n'ont pas aidé parce que Mandzukic s'est blessé en début de janvier, Bonucci et Chiellini aussi, donc 3 joueurs cadres reviennent vraiment d'une façon il faut du temps encore pour les revoir au top niveau. Les jeux n'est pas extraordinaire, mais n'a jamais été extraordinaire, mais il y avait des individualités qui arrivaient à faire les jobs. Et après il y a une image pour moi inquiétante, c'est-à-dire la Juve fête quand même sa victoire à Napoli, après il sort du terrain, tout le monde est plutôt souriant sauf un qui fait un peu la gueule, c'est Cristiano.
Et parce qu'il n'est pas performant en ce moment et qu'il n'aime pas ça.
Voilà. Et c'est quand même les meilleurs buteurs des Serie A. Hein,
oui, parle. Oui. Non, et quand on dit pas performant, tu nous l'as dit aussi. Voilà, physiquement, il est un peu ébouté.
Je pense que cette trêve, c'est la première année où nous avons joué beaucoup dans les fêtes de Noël. Mmh. Il y a eu une trêve en janvier. Derrière, il y a eu la Supercoupe. Je pense que la Juve a tout raté à niveau de préparation, reprise de préparation.
Mais il joue trop. Il a trop joué, Cristiano.
Cristiano a toujours joué.
Comparé aux saisons qu'il avait fait au Real,
là, on l'a déjà dit,
il a trop joué. Bah,
c'est ce que tu as expliqué la semaine dernière, ouais. Simonet. Ouais. Il s'est pas reposé au Real. Un match sur 5, il jouait pas, quoi, avec Zidane.
Sinon, je te coupe, Fred, mais des nouvelles d'Icardi et de sa femme?
Énorme. C'est énorme. Il y en a toujours.
Qu'est-ce qu'il y a d'énorme?
Colossal, si tu veux.
Il y a des nouvelles chaque jour, chaque semaine. Celle d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu apparemment, ils se sont parlé, Icardi et Spalletti. Icardi a confirmé que lui, il a mal au genou, donc il peut pas jouer. La chose intéressante, que dans toutes les émissions italiennes, où il y a des anciens joueurs qui parlent, qui ont leur opinion, je sais pas, sur Sky, il y a Capello, Pirlo, Giuseppe Bergomi, sur Mediaset, il y a Ferrara, Cassano, c'est le premier, c'est les chefs de la file de ceux qui attaquent la Icardi et sa femme pour cette gestion.
C'est grotesque.
Mais il y a aucun grand joueur du passé qui donne raison à Icardi. Donc, chose est plutôt incroyable. Tout le monde admet, il s'est mis les vestiaires au dos, il peut pas continuer comme ça, doit faire un pas en arrière, il ferait pas. Pour moi, Icardi, il va pas plus jouer en minute avec le maillot de l'Inter cette saison. Je trouve que c'est fini.
Ni avec celui de la sélection.
Tiens, Simonet, je te laisse le choix. Tu veux qu'on enchaîne avec l'Angleterre ou avec l'Allemagne?
Ouf, l'Allemagne.
Et Francfort-Inter, voilà. Francfort-Inter, jeudi.
Francfort-Inter, jeudi. En Europa League, très bien.
Je vais savoir un peu.
La vie franchée de l'Orto, c'est tout de suite, juste après son jingle.
On est gauchers tous les deux, je précise.
T'es pas gaucher, toi.
Wow, si, gaucher. Ce qui t'a mis, là non.
Ah, t'es gaucher? Ah, ça m'inquiète, alors. Franchement, je l'ai vu jouer au foot. Si
mais non, tu m'as pas vu jouer. Tu peux pas juger un joueur sur 5 minutes. C'était 2 minutes 30.
Parfois, ça suffit. Hein, parfois, ça suffit, ouais.
2 minutes 30, c'est beaucoup.
Tu voulais parler du Bayern, qui revient.
Qui a retrouvé le sourire, c'est la balade des gens heureux, le Bayern. Alors c'est fou quand on pense à ce qui s'est passé avant Noël, avant la trêve, et ce Bayern qui était pas souffreteux mais qui était quand même loin de Dortmund. On faisait une comparaison qui était quand même très à l'avantage de l'autre gros du championnat actuel. Et ben cet écart qui avait gonflé jusqu'à 9 points, aujourd'hui, il y a plus que 2 petits buts en faveur de Dortmund, qui est toujours leader, mais dont la différence de but, qui était très avantageuse, n'existe plus. Pourquoi ? Alors, il y a quelques raisons, Gilbert, qu'on peut identifier, qui sont, à mon sens, importantes, et qu'on a pu voir, pour certaines d'entre elles, dans la victoire fracassante du Bayern ce week-end, dans le match au sommet du championnat contre Mönchengladbach, 5-1. Hein, on parlait de match, on avait fait un petit sondage, souvenez-vous, la semaine dernière, pour savoir quel match il fallait suivre ce week-end. Alors certes, il n'y a pas eu match en fait, puisque 5-1 à l'arrivée, Gladbach a explosé. Mais c'est intéressant pour voir un peu la forme du moment au Bayern. Alors, il y a quelques joueurs sur lesquels on peut s'arrêter rapidement. Lewandowski, non pas parce qu'il est super brillant en ce moment, parce qu'il a vendangé énormément ce week-end, mais parce que il a battu quelques records importants. 51e doublé en Bundesliga, bon, c'est sympathique. 195e but, il a égalé Claudio Pizarro dans l'histoire de ce championnat comme le buteur étranger le plus prolifique. C'est bien de le signaler peut-être. Et puis Lewandowski, eh ben, c'est le joueur qui, alors, je le répète, j'insiste, tout le monde le qualifie comme le meilleur avant-centre du moment en Europe. Je suis pas d'accord, moi. Parce que c'est un joueur qui, certes, marque régulièrement, ok, très bien, mais qui peut aussi, et à l'image du match de ce week-end, louper 3-4 occasions franches, et on se dit, c'est tragique, quoi. Mais bon, Lewandowski impressionne. Lewandowski est là, au bon moment. Il a marqué deux fois ce week-end. Il a marqué le penalty qui lui permet d'égaler ce record de Pizarro. 14e et 15e but en championnat. Ok, c'est un atout pour le Bayern. Javi Martinez, souvenez-vous. Et Fred, on en parlait la semaine dernière. Joueur essentiel quand le Bayern a gagné des matchs importants ces dernières saisons. Il a été là quand il a fallu marquer des buts très importants. Et c'est le moment de Javi Martinez, le seul milieu défensif de métier dans cette équipe. Il est là, il marque, il est essentiel. Il a stabilisé, il a cimenté, il a consolidé l'aspect défensif du Bayern, qui était assez catastrophique ces derniers temps. Souvenez-vous qu'on se moquait, qu'on rigolait des prestations d'Hummels, de Boateng et de quelques autres en disant que ces joueurs-là étaient dépassés. Aujourd'hui, ils ont retrouvé une certaine valeur sportive aussi, à mon sens, parce que Javi Martinez a stabilisé un peu le jeu défensif du Bayern. Et puis Thomas Müller. Thomas Müller qu'on a abondamment enterré. Ah,
ton chouchou.
Ben oui, on l'a abondamment enterré ces derniers temps. Müller a eu le grand mérite et il a été félicité par les chroniqueurs et les vieux grognards dans les médias ce week-end en Allemagne, par les grands anciens, notamment Stefan Effenberg, qui a dit que Müller, grande qualité de Müller d'avoir fermé sa bouche en étant remplaçant 4 fois d'affilée, ce qui ne lui était jamais arrivé, je crois, depuis 2011. En championnat, il avait été mis 4 fois d'affilée sur le banc par Kovac. Müller a fermé sa bouche, Müller a joué ce week-end, et Müller a marqué le deuxième but, je crois, de ce match, et a retrouvé une bonne humeur. Et c'est très important quand tu as plein d'absents, comme Robben, comme Ribéry, comme Goretzka, comme Kingsley Coman, et quelques autres. C'est bien de pouvoir compter sur un Thomas Müller. Donc j'en ai cité 3 là. Javi Martinez, Lewandowski, Müller, qui sont des piliers de ce club, et qui sont bons, à défaut d'être irrésistibles, qui sont bons au bon moment, et au moment où il va falloir faire pencher la balance à l'Allianz Arena contre Liverpool. Donc mon avis tranché, c'est celui-là. Le Bayern est redevenu dangereux, en particulier grâce à ces hommes-là.
Est-ce que Dortmund demain peut faire une remontada allemande?
C'est
après avoir fait 3-0 à Tottenham à l'aller.
Dortmund,
comment on dit remontada en allemand?
Bonne question.
Remonter. Bah comment on dit revenir? Il revient.
Zurückkommen.
Bah voilà.
Est-ce qu'il peut faire une
Zurückkommenada? Oui, alors évidemment l'argument numéro 1 c'est évidemment Marco Reus, parce qu'il va être de retour. Il a joué, il n'était pas à 100%. Simonet parlait des joueurs cadres de la Juve qui n'étaient pas encore à 100%. C'est vrai aussi pour lui parce qu'il revient d'une blessure musculaire un peu pénible, parmi les dizaines de blessures qu'il a eues par le passé, mais il va être là pour ce match très important et c'est lui évidemment qui va porter les espoirs. Parce que quand Reus n'est pas là, aujourd'hui il est capitaine, aujourd'hui c'est un taulier. Il a pratiquement 30 ans et il s'est affirmé comme vraiment un leader dans ce club-là. D'ailleurs, la presse n'a pas loupé ce fait-là cette saison. C'est lui qui peut porter cette équipe. C'est lui qui peut marquer les buts. C'est lui qui peut donner les passes. C'est lui qui peut rameuter son équipe quand ça tangue un peu. La raison principale, je vais aller vite, Gilbert, la raison principale de l'effondrement de Dortmund, me semble-t-il, ces dernières semaines, alors qu'ils avaient fait 6 mois fabuleux, c'est que peut-être ils se sont cru un peu arrivés, ces jeunes-là. Ils ont eu une avance incroyable, ils multipliaient les actions, chaque fois qu'il y avait un tir, il y avait un but. Et des jeunes comme Jadon Sancho, 18 ans, et comme plein d'autres qui sont aussi, Achraf Hakimi, tiens, pareil aussi qu'on peut citer, se sont peut-être vus un peu trop beaux.
Ouais. Il était bon lui au début.
Ben oui, alors quand tu as une équipe qui doit ramer un peu plus, si tu as pas des joueurs qui peuvent taper un peu du poing sur la table, comme pouvait l'être Sébastien Kehl, l'ancien capitaine qui est maintenant dans l'encadrement, si Reus n'est pas là, et ben ça, la boussole est perdue et c'est lui qui est l'espoir principal à mon avis pour Dortmund. Un but tôt dans le match,
et l'espoir va revenir dans les rangs des 65, 70 000 spectateurs.
Il y croit, le Zozo. Bon, écoute, on va voir.
Pour marquer des buts, oui. Pour en encaisser,
Julien aussi. Tu dis quoi, toi, Tottenham? Tu trises les moustaches quand tu l'entends,
Non, mais en revanche, là où Lorto a raison, c'est que c'est sûrement le meilleur moment pour affronter cette équipe de Tottenham qui a pas à gagner depuis 3 matchs en championnat, qui a du mal à se créer des occasions. On l'a encore vu contre Arsenal samedi à Wembley, qui défensivement est loin d'être aussi costaud qu'elle a pu être peut-être par le passé cette saison. Et au match aller, toute la première période, c'était Dortmund qui dominait cette équipe de Tottenham, qui avait la main mise sur le ballon, qui se créait des occasions, ils ont manqué de réussite, et d'un autre côté, ils ont été très malheureux de prendre ces trois buts-là, avec Hakimi notamment, qui fait deux énormes erreurs, oui. qui coûte deux buts, mais sinon, sur la première période, il n'y avait pas photo sur quelle équipe était la meilleure, c'était Dortmund, même à Wembley. Donc c'est vrai que les trois derniers résultats de Tottenham, vraiment décevants, la défaite à Burnley, la défaite à Chelsea et le match nul arraché contre Arsenal samedi, font qu'il y a quand même un petit doute sur la capacité à cette équipe de Tottenham à contrôler la rencontre, à pas prendre de but et voire même à en marquer un.
Alors j'ai suivi le quart d'heure de conférence de presse aujourd'hui de Dortmund, c'était profil bas hein, quand même, il y avait Royce et Favre. C'est pas par hasard qu'il y avait ces deux-là, l'entraîneur et le meilleur joueur, mais Favre a dit mais pratiquement rien, c'était une conférence de presse d'un vide abyssal. Mais ils font profil bas. Bon, je pense que dans le fond de leur esprit, il y a peut-être quand même 10% de chance de parvenir à renverser la situation.
Dans quelques instants, Manchester United peut-il le faire? L'avis de Julien Laurens, argumenté, bien sûr. C'est dans l'after pour répondre à la confiance que nous a vendue Pierre Ducrot tout à l'heure, qui dans la première heure de l'after nous a dit pas de problème, c'est déjà in the pocket, il faut maintenant marquer
j'ai
le coup
pas dit ça, j'ai
et mettre 7 buts à Manchester United. C'est ce que tu as dit tout à l'heure.
Non, j'ai pas dit c'est in the pocket, j'ai pas du tout dit ça.
Il faut aller avec le couteau entre les dents.
J'exagère un peu le
truc. Tu
ne l'exagères pas, tu le trompes. Ouais, tu le déformes complètement.
La 104.
Honteux.
T'es quand même confiant, c'est ce que tu as dit.
Il faut l'être. Et il faut aborder ce match pour marcher sur Manchester, voilà. Pas faire l'inverse, justement.
Très bien. Réponse de Julien Laurens dans quelques instants, dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là. Il nous reste donc un bon quart d'heure d'after avec les drôles de l'âme. Et tout de suite, Manchester United est au programme. Julien Laurens est là, jingle.
Man, quelle surprise! Just imagine, they can go top of the table in Ligue 1 if they win on Friday night at home against Lille.
Mais c'est quoi ce truc?
Je sais pas tout ça, je m'en rappelle même plus.
Une petite bande-annonce de Julien qui vend ses matchs là, c'est pas mal.
Ouais. Qui pouvait arriver au top de la Ligue s'il gagnait face à Lille? C'est la question.
Je m'en rappelle plus d'où ça vient, je sais pas d'où ça vient, mais je m'en rappelle plus d'où ça vient.
Bon,
c'était bien moi pourtant.
Bon, oui, c'est bien toi. Donc, que réponds-tu à Pierre Ducrot concernant Manchester United mercredi face au PSG?
Je lui réponds qu'il a bien raison, Pierrot, qu'il a bien raison. Merci. On en a déjà parlé l'autre soir, parce que moi aussi je pense que c'est mission impossible pour cette équipe de Manchester, que j'ai trop regardé sûrement cette saison, et vivement qu'il se fasse éliminer. Non, plus sérieusement, je vois pas comment, et c'était hier, Pierrot, il faudrait que Manchester et que l'équipe que Solskjaer va aligner, qui sera une équipe très très jeune, hein, peut-être la plus jeune d'ailleurs de l'histoire du club en phase d'élimination directe de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe, il faudrait qu'elle soit largement au-dessus de ses capacités, de sa qualité même, et que le PSG de l'autre côté soit largement en dessous de ce qu'elle est capable de faire, du talent de ses joueurs et du talent de son collectif. Et je pense que c'est impossible qu'on en arrive à ce point-là, au point où au Parc des Princes, avec le déficit du match aller, avec les absents côté mancunien, avec l'inexpérience aussi à ce niveau-là d'un entraîneur comme Solskjaer, qu'ils arrivent à combler le retard, à faire douter cette équipe du PSG, et même s'ils joueront à fond, même s'ils vont y aller pour essayer de faire quelque chose, essayer de mettre un petit peu de doute dans la tête des Parisiens, je vois vraiment pas, j'ai beau le tourner dans tous les sens, je vois pas comment tactiquement ils peuvent trouver la faille, je vois pas comment individuellement, même un Rashford, même un Lukaku, je vois pas comment ils pourraient vraiment poser assez de problèmes au PSG pour renverser complètement la situation.
Est-ce que Julien, non, je vais demander le milieu probable de Manchester demain,
mercredi.
Alors, mercredi, pardon. Il y a des Anglais qui disent qu'ils pourraient jouer en 3-5-2. J'y crois pas une seule seconde, moi. Je crois pas du tout à la défense à 3 ou à 5, hein, peu importe comment tu veux la voir. Je pense qu'il alignera un 4-3-3 parce que c'est comme ça qu'ils ont beaucoup plus travaillé depuis l'arrivée de Solskjaer à la mi-décembre. Et je le vois pas tenter un truc tactiquement comme ça alors qu'il ça pourrait, si tu veux, il pourrait en prendre 4 ou 5. Voilà, alors c'est déjà compliqué. Donc je pense que tu auras Andreas Pereira qui a marqué un joli but samedi, qui est un bon jeune joueur, mais encore une fois, hein, qui est très léger à ce niveau-là, avec Scott McTominay qui est lui aussi un bon joueur issu du centre de formation, et Fred le Brésilien qui était complètement à la cave sous Mourinho, malgré le fait qu'ils aient payé 50 millions d'euros cet été pour le faire venir du Shakhtar, et qui n'a pas beaucoup plus joué depuis l'arrivée de Solskjaer non plus, donc ces trois-là au milieu. Et après, devant Lukaku et Rashford, ça c'est sûr. Et le troisième pourrait être Diogo Dalot, le jeune portugais qui normalement est plutôt un latéral droit, mais qui, comme il est entré en jeu par exemple, où il a joué les deux derniers matchs plus ou moins à ce poste-là, pourrait aussi jouer côté droit pour aider Young au poste d'arrière droit, notamment face à Di Maria. Mais voilà, c'est une équipe vraiment mixte.
On le connaît quasiment.
Oui, tout à fait. Ouais. Il a très peu joué cette saison, même s'ils ont payé 20 millions d'euros pour lui l'été dernier sous Mourinho. C'était une des recrues de Mourinho. C'est très léger quand même. Tu vois, collectivement et individuellement, ce sera très léger mercredi.
Bon, bah les autres là, un avis sur ce match ou
Oh ouais, il a raison. C'est plié quoi.
Tous les absents que tu as cités tout à l'heure, Gilbert, c'est vrai alors.
Ah oui, oui.
Non, mais parce que j'ai écouté la liste.
Et là, on parlait des blessés, sans ajouter Pogba.
Bon, oui.
Pogba absent, tu veux dire, parce qu'il est
juste en plus. Ouais, exactement.
Ouais, suspendu.
Donc, comme ça, vous savez à l'avance, hein, grâce à l'after, dès lundi, que le PSG est d'ores et déjà qualifié. Bravo Pierre et bravo Julien, on vous remercie les gars. pendant ce temps-là, tiens, la lutte pour le titre de champion d'Angleterre, tiens d'ailleurs. Répond à l'ortho. L'ortho lui dit ouais, je suis le championnat qui a le plus de suspense en Europe.
Ah mais non.
Ah non, mais
là aujourd'hui, à l'heure où on parle, oui.
Bah oui, c'est fini à l'Angleterre, c'est City qui gagne.
Oh, c'est fini, qu'est-ce qui est fini?
Il peut se passer plein de choses.
Ouais,
la Ligue des Champions. Noël, tu disais que Liverpool était devant avec je sais pas 6-7 points là et
tu disais ça.
C'était pas l'opinion, c'était la réalité.
Après, Liverpool ça tombe un joueur et les autres marquent des buts. C'est déjà arrivé
début janvier on dit que Liverpool est champion.
C'est normal les glissades.
Non, c'est loin d'être terminé, forcément. Bien sûr, c'est loin d'être terminé. Il y a qu'un point entre les deux, mais c'est vrai que ce week-end-là, tu t'as senti un moment. En fait, la machine Manchester City, tu la voyais arriver. Tu sentais qu'à un moment, ils allaient vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ils avaient eu parfois des petits soucis. On se rappelle des défaites contre Crystal Palace, contre Leicester, ou des matchs un peu moins aboutis sous Pep Guardiola, ce qui était assez rare la saison dernière, où ils font cette saison incroyable, pleine de records et tout ça. Mais t'as senti un moment quand même qu'ils étaient passés en mode monstre et en mode on va tout écraser sur notre passage, parce que comme le dit Pierre, le 3 janvier, le jour du Manchester City Liverpool, si Liverpool l'emporte, ils prennent 10 points d'avance sur City, ils perdent ce jour-là, et entre le 4 janvier et aujourd'hui, la différence est passée de plus 7 à Liverpool à moins 1, donc ou à plus 1 pour Manchester City, peu importe le sens dans lequel tu veux le voir. Et c'est vrai que tu sens quand même que la dynamique elle s'est inversée, tu sens que cette équipe de Liverpool elle commence un petit peu à galérer. Ils ont fait 4 matchs nuls lors des 6 derniers matchs de championnat. Ça commence à faire beaucoup de points abandonnés dans une course au titre comme ça, où tu sais très bien que City de son côté ne va pas abandonner beaucoup de points dans cette même course au titre. Quand Mo Salah n'a pas marqué depuis 4 matchs maintenant, toutes compétitions confondues, ça commence à faire beaucoup. Et quand tu rates des occasions comme dimanche dans le derby contre Everton, où c'est des matchs que tu dois gagner parce que tu as les occasions pour le faire et tu le fais pas, et t'es moins efficace que t'as pu l'être l'année dernière, t'es moins efficace que t'as pu l'être même il y a 2 ou 3 mois. Et quand t'ajoutes tout ça, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et tu te demandes si le fait que City soit passé devant maintenant, c'est vrai que voilà, je sais pas si Liverpool va pouvoir s'en remettre.
Ça peut être un tournoi du championnat, quoi.
Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Liverpool.
Non, mais et aussi.
On verra le parcours.
Est-ce que Julien Leroux va t'amener un peu plus d'arguments que toi?
C'est pas ça. C'est que. Est-ce qu'il y a un mauvais signe aussi?
La dynamique est favorable effectivement à City. Là, on peut tous se rejoindre
dessus
et dire que tout est joué, que c'est fini.
Mais il y aura aussi, on verra en fonction des parcours européens des uns et des autres.
Ouais, aussi, bien sûr.
Voilà, il y a ça aussi. Mais ce qui est mauvais signe, c'est quand ton entraîneur.
Dans l'écart et l'autre. Non. Et ça aide quand même.
Pour moi, ça aide Manchester City. Ouais. Il n'a pas des problèmes de rotation.
Ils sont pas, mais ils ont perdu De Bruyne, par exemple, là, tu vois. Ils ont perdu De Bruyne.
De Bruyne, il n'est pas là au début de la saison. Il est revenu.
Non, mais bien sûr.
En novembre.
C'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr.
Mais c'est vrai qu'il a aidé beaucoup, mais. Moi, je vois une dynamique. Après, bon, c'est mon point de vue. Une dynamique qui est.
Non, et ce qui est mauvais signe aussi pour Liverpool, incroyable. c'est quand Klopp commence à trouver des excuses, comme le vent, par exemple. Donc là, dimanche hier, il nous a sorti le vent.
C'est pas la première fois
qu'il nous sort des excuses un peu comme ça. Après, non, sérieux, il s'est pris la tête avec un.
Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'est mythique quand même.
Et oui, il a dit qu'avec le vent qui soufflait, c'était pas facile pour son équipe. Alors qu'encore une fois, hein, ils ont eu des occasions nettes pour remporter le match, et que lui, qui est pourtant tellement lucide habituellement, et puis tellement honnête et objectif dans ce qu'il peut, dans ses analyses d'après match, notamment comme ça, même à chaud à la télévision, que là ils nous sortent l'excuse du vent pour lesquels ils ont abandonné 2 points, ils ont perdu la tête du championnat, c'est un peu limite. Après, il s'est pris la tête avec un journaliste qui lui disait mais peut-être que vous avez pas fait des choix non plus assez offensifs pendant la rencontre, et là il a sorti cette phrase mythique, mais c'est pas la PlayStation, le football, c'est pas parce que je vais mettre un joueur offensif sur le terrain que ça va tout changer, etc. D'un autre côté, il avait pas essayé non plus, donc c'est pas, mais c'est vrai que tu sens qu'il y a beaucoup de nervosité chez Klopp aussi, ça,
ouais. Mais Klopp n'est pas,
et ça c'est jamais bon signe,
n'est pas un peu mauvais perdant dans certains situation. Moi, je me souviens déjà cette année en Ligue des Champions face à Paris, il avait sorti l'histoire des arbitres. Quand il était à Borussia, moi je me souviens que la Ligue des Champions perdue face au Bayern, il s'était pris à l'arbitre. C'est quelqu'un qui est toujours génial,
ouais,
magnifique.
C'est peut-être dans son caractère, ouais, un mauvais moment.
Quand il y a une défaite un peu lourde, je le trouve qui s'écrispe.
Il y avait une histoire avec Marcelino Garcia Toral quand il était entraîneur de Villarreal. Vous vous souvenez de ça? Où il avait dit, c'est intrigant entre entraîneurs, mais, enfin, en se moquant de lui, il a dit, mais il est tout ce que je ne suis pas, humainement, enfin, un truc. Vous vous souvenez pas de ça?
Oui, parfois, il est assez dur, dans ce qu'il dit. Ouais,
violent,
tout à fait.
Bon, on va suivre en tout cas. Alors, vous savez que on a eu donc dans la série des blessures les plus grotesques de l'histoire, Younous Sankaré, hein, indisponible à Bordeaux à cause d'implants de barbe qui ont mal tourné. On me rappelle d'autres faits intéressants dans vos championnats respectifs. On me rappelle notamment que Rio Ferdinand s'était blessé parce qu'il était resté trop longtemps les pieds sur sa table basse.
Oui. À regarder la télévision.
Il a regardé la télévision
pendant 8 heures de suite.
C'est une position qu'il faut bannir quand t'es. Ouais, non, mais c'est vrai.
Ouais.
Et on met pas les pieds sur les meubles, merde. C'est mal élevé.
Non, mais c'était les jambes, allongées.
Tu sais, je mets pas les pieds sur ta table.
Ouais, en plus, déjà.
Et vous souvenez de la blessure de Santiago Canizares?
Là, oui, on a parlé, la bouteille de parfum.
Voilà, qui avait
perdu. Pardon, mon petit frère. T'as eu mieux, toi, au Real. Un mec qui a été absent à cause d'une épilation.
C'est qui?
T'en souviens pas de ça?
Et toi, Fred, t'avais loupé un match, rappelle-toi.
Alors attends, je vais te rentrer ça parce qu'on me l'a envoyé sur Twitter il y a quelques instants.
C'est pas Gouti, ça ressemblerait à Gouti, ça.
Ouais, mais il a pas été absent à cause de ça. Il était absent parce qu'il était sorti trop tard. Mais.
Gouti, le roi des crèmes.
Une épilation.
Bah, et Asensio out à cause d'une épilation.
Ouais, ça me rappelle. Ça me dit quelque chose, cette histoire. Hein.
Génial.
Et pourquoi c'est quoi la...
Extraordinaire.
On me rappelle, Carlito nous rappelle que Ever Banega à Valence s'était fracturé le tibia. Il avait oublié de mettre le frein
de sa
voiture.
À une station d'essence.
Ah oui, ça c'est.
Et lui, il a plusieurs casseroles. Hein. Il aime bien montrer son sexe devant des webcams.
C'est ce que tu veux dire. Bah oui, voilà.
Ça blesse pas, ça.
Ouais.
Bah, si ton image, si, parce que si les images elles sortent.
Bon, ah bah, les images sont sorties, c'est ça le.
Vous avez rien d'autre pour notre liste,
mais que ça c'est les UV, c'était pas mal.
Ah, mais que ça c'est les UV, c'était pas mal.
C'était pas une blessure, mais Borriello qui est suspendu pour la crème vaginale de sa femme. Borriello était positif au dopage.
Ah oui, dopage, oui, d'accord.
Il avait dit, c'était un produit qui était dans la crème vaginale de ma compagne. Donc,
c'est dangereux, hein.
C'est vrai, hein.
Fred, tu le sais, ça.
Ouais. Et puis alors, c'est vrai qu'on avait oublié aussi Letizy, qui s'était bloqué le dos en ramassant une lettre de Scrabble.
Pourtant, tu te dis,
c'était une lettre qui valait combien de points?
Et Johan Gourcuff aussi s'était blessé en prenant son chien.
Exact, ça fait beaucoup rire
parce que
Gourcuff est escudé.
Ouais, on leur pardonne, les chiens, c'est bien. Chiens, c'est la vie.
Bon, très bien. Je tenais quand même à rajouter cette aux blessures grotesques cette série de faits importants, hein, dans l'histoire du football, hein, que nous apporte le foot européen. On a notre gagnant, les gars, du soir. Il s'appelle Clément. Salut Clément.
Salut tout le monde.
Salut Clément. Supporter rennais.
Ouais, supporter rennais, c'est compliqué, mais en ce moment ça se passe bien.
Ah oh bah là, bah attends,
t'as la win là.
Tout le monde a. C'est parti, le meilleur moment de l'histoire du club. Oh.
Ouais, 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 c'est pas mal. Bah, bon. Déjà, il y a le déplacement Arsenal, ça c'est déjà fait. Donc, on est chaud, tout le monde.
Eh bah écoute, et puis là, ce soir, on t'offre deux places pour le match de jeudi. C'est cadeau, c'est toi qui as gagné.
Franchement, c'est Noël. C'est, je sais pas quoi dire, mais c'est super cool.
Merci.
Je fais une dédicace à mon petit frère qui a pas réussi à avoir de place. Et je pense qu'on va y aller ensemble. Donc, ça c'est cool.
Super.
Je vous remercie tous.
C'est cool.
Mais attends, mais comment tu t'appelles?
Clément.
Clément, mais t'as la voix d'Edouard G.
Ah, bah ouais, mais non, je suis un peu plus jeune.
Tu trouvais pas?
Ouais, non. Il est pas si vieux,
hein. Je trouvais pas, tiens. Franchement, moi, j'ai cru que c'était Edouard G.
Ce n'est pas Edouard, hein. Je connais très bien la voix d'Edouard. Edouard
Doudou. Mais pas jusqu'à vous, Edouard, il voulait. Ça voudrait dire que le jeu est truqué. C'est ça.
Que tu veux des places?
Personne n'appelle le 32-16. Ou qu'en fait, on a vraie place à offrir, donc
on n'a aucun lien avec Rennes, donc voilà. Clément, tu
Clément, oui. Clément, quand tu. Ces dernières semaines, vous disiez des choses très bien sur Rennes, et qu'il y a certains Rennais qui râlaient par rapport à ce qui était dit avant. Et je trouvais que vos critiques étaient toujours bonnes, surtout M. Riolo, qui des fois peut faire mal en tant que supporter, mais souvent c'est juste et pertinent dans ses remarques.
Ah, mais c'est un pote à Riolo, c'est ça.
On lui transmettra.
J'aime pas Paris, Donc c'est bon.
Ah, bravo Clément, en tout cas, et bon match jeudi. Ce sera sur RMC, ce match, évidemment, entre Rennes et Arsenal. Bon, messieurs, le drôle de l'âme, on vous retrouve toute la semaine. Avec la Ligue des Champions, évidemment.
Et l'Europa League.
Et toute la semaine. Et l'Europa League, oui, parce que Simonet est très présent en Europa League cette année. Et puis, il anticipe déjà le fait qu'il se fasse dégager en Ligue des Champions.
Soigner sa sortie.
Non, mais t'as raison, c'est une grande compétition. C'est une
grande
compétition.
T'as l'habitude,
Simonet.
Calme, calme.
Allez, salut à tous. Et demain, l'after sera là dès la fin des matchs, aux alentours donc de 23h, après les matchs de Ligue des Champions qui seront en ligne sur RMC. Bonne nuit.
RMC. L'after foot.